François Stressart et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. À l'affiche Joli Dimanche, classe de rhétorique et la foire au vert, selon Jacques Vallée, un parc à rimes et à boire.
Cependant, pour ceux qui sont abstènes, alors ça c'est un problème, les abstènes, c'est ceux qui ne boivent pas d'alcool, un kiosque leur réserve l'œuvre complète de Boileau.
Ensuite, place aux lettres inattendues à la cour de Louis XIV, au pamphlet avec Pascal Fioretto, Jacques Abertrand, et puis le joli dimanche d'Homère. Et nous ferons bout de sous avec Véronique Brindeau, et pour le décodage de cette onomatopée japonaise, Dominique Muller et Jean-Bernard Pouy.
C'est cette courte mais irrépressible sensation où l'on sait qu'on va être pris d'un fou rire à contre-temps. Par exemple, pendant un enterrement ou une cérémonie sinistre, oui. Juste avant d'éclater, on le sent.
C'est terrible.
En même temps, bon,
ça arrive.
Ça dédramatise un peu. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Pour le rattrapage et pour vos collections de papou, direction franceculture.fr, après l'émission, vous téléchargez pendant un an, vous réécoutez direct sur votre ordi, tablette, que sais-je, pendant 1000 jours. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est Papou pour un joli dimanche en chanson 19e, à la manière de Béranger, par Dominique Muller.
Le dimanche gros. Il était un dimanche gros, peu connu dans l'histoire, se levant tard, se couchant tôt, dormant bien après boire. Il sortait de son édredon, le nez dans le guidon, dit-on. Ho 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 ho, ha 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 ha, quel gros dimanche c'était là. Lala. Il filait vers un bon repas, invité en famille, chez Belle Doche et Beau-Papa, il fallait qu'il babille. Une fois poulet avalé, sur un canapé affalé, télé. Oh, 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 ah, ah, quel gros dimanche c'était là, lala. Il s'ennuyait, mais c'était bon, s'en mettait plein la lampe, des apéritifs aux bonbons. Mais le soir, on décampe, la joie du dimanche s'effrite. Demain, lundi, fini le rite des frites. Ho 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 ho, ha 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 ha, quel gros dimanche c'était là. Ça peut se chanter
oui.
Sur l'air du roi d'Yvetot.
Dites-nous un peu.
Ah, je ne l'ai pas. Ah non. Ah non.
À quoi tu penses, Lucas ?
Je pense que je ne me souviens plus du prénom de Rembrandt, mais je me souviens en revanche du prénom de Papou dans la tête. C'est Dédé. Et le 30 novembre, c'est la fête à Dédé, parce que c'est la Saint-André.
Non.
Et c'est aussi les 30 ans des papous.
Et oui, dimanche 30 novembre, les papous ont 30 ans. Un anniversaire à célébrer au studio 104 de la Maison de la Radio, en deux récrés publics avec tous les papous. Et Pablo Gignoli au bandoneon et Gabriel Godard au piano chant avec ses copines les sardines. Elles chanteront 4 chansons de traînée parce que c'est comme ça, les sardines chantent traînée. 2 par récré. La récré du matin de 11h à 13h avec un invité surprise qui jouera à un de nos jeux papou. Alors je ne vous dis pas son nom sinon où serait la surprise? La récré de l'après-midi de 15h à 17h, suivie de la surprise de l'après-midi en forme de 30 cadeaux. Ricardo Mosner découpera devant vous sur scène la toile géante qu'il aura peinte toute la journée en public. Il la découpera en 30 petits tableaux, un par année des papous dans la tête sur France Culture. Et ces tableaux seront les lots de la tombola gratuite des 30 ans. C'est le programme de notre, de votre dimanche 30 novembre. Vous êtes tous invités à une récré, à deux récrés, c'est comme vous voulez. Mais il faut réserver votre place sur le site maisondelaradio.fr. En minuscule tout attaché, maisondelaradio.fr. On en reparlera. Rêvez de devenir président de quelque chose, la République ou l'association des riverains de votre rue ou celle des parents d'élèves, vous serez amené à vous exprimer en public, à porter un toast, faire une allocution, un discours. Imaginez un discours. Sans entraînement, c'est juste impossible. Il vous faut un coach et de la pratique. Et c'est ce que nous proposons aux papous, des galops d'essai sur tous les sujets possibles, même les plus farfelus. Il faut être prêt au cas où. Les classes de rhétorique avec Jean-Bernard Pouy et Patrice Caumont pour lui répondre. Alors ça se passe dans quelles circonstances, Jean-Bernard Pouy, ce discours ?
Ça se passe dans une grande salle, un peu sinistre, où l'éclairage est un peu trop bas. Mais oui. C'est une grande salle louée pour une assemblée générale d'associations.
Et nous, on est qui dans l'assemblée ?
Vous êtes des membres de cette association, oui. La PPA.
La PPA.
L'association pour la promotion des plantes aromatiques.
Ah bon ? Oui. Et on est des plantes, des jolies plantes.
La promotion des plantes aromatiques.
Bon, donc on n'est pas des jolies plantes. On dit non, mais je suis désolée, hein, c'est dommage. Mais bon. Allez, on vous écoute.
Messieurs, mesdames, chers amis, comme chaque année, nous voilà parvenus à l'Assemblée Générale de notre formidable, pérenne, goûteuse et odorante association. Depuis de nombreuses années, l'APPA, Association pour la promotion des plantes aromatiques, a imposé sur toutes les tables, privées et publiques, de France et d'ailleurs, nos valeurs, nos mystères et d'une certaine façon, notre obligatoire présence. En tant que président sortant, moi-même, Jean-Luc Romarin, j'ai tout fait, non seulement pour promouvoir l'excellence de nos existences, mais surtout pour maintenir une sorte d'égalité dans ces mêmes excellences. Je dois m'enorgueillir, par exemple, d'avoir beaucoup fait pour la promotion de notre consoeur Augustine Mante, grâce aux raz-de-marée récentes des After Hours et notamment des Mojitos. N'oublions pas non plus notre campagne pour aider notre camarade, la comtesse de Ciboulette, qui aujourd'hui orne d'un brin, d'un seul, disposé entre deux ou trois gouttes de vinaigre balsamique, la plupart de nos assiettes. Donc, nous allons bientôt revoter pour élire notre nouveau président, qui, espérons-le, aura la même et longue carrière que nos anciens. J'ai nommé, bien sûr, notre fondateur, l'indéboulonnable César Marius Thin, et son successeur, Alphonse Dulaurier. Gloire à eux d'avoir, par leur travail et leur abnégation, assurer notre obligatoire importance. Et gloire aussi à nos grands anciens, qui œuvraient bien avant la création de notre association. Les inoubliables frères Marcel Persiplat et Marcel Persifrisé, qui depuis des lustres avaient déjà fait l'essentiel du boulot. Vous savez tous que, par respect démocratique, j'ai décidé en mon âme et conscience de ne pas me représenter. Vous savez aussi, car ce n'est un secret pour personne, que j'ai mes préférences et que je milite, si on peut dire, dans mon coin, en faveur de la candidature de notre trésorière, Germaine Oseille, que vous connaissez tous et toutes sous le sobriquet de Pépette. Secondée par notre chère Albertine Sarriette, dont vous appréciez depuis longtemps la puissance du bénévolat. Face à elle, il y a d'autres postulants qui méritent également mon respect. J'ai nommé Albert, le marquis de Cerfeuil, qui fait équipe avec la belle Justine Sauge et notre ami fidèle Adhémar Fenouille. Je viens juste de vous confier mes préférences, mais je laisse votre sens démocratique des responsabilités s'exercer librement, sans pression aucune. Cela dit, je voudrais ici officiellement exprimer mon désaccord face à la campagne haineuse et injuste du lobby dirigé par le vicomte Pesto de Basilique, secondé par ses sbires sans foi ni loi, le baron Léon d'Origan et son épouse Valérie Coriandre. Avec des méthodes que je qualifierais de quasi-impérialistes, ils n'ont rien moins comme programme que de dominer le monde. Avant, ils se satisfaisaient de leur fonction, décorer une mozzarella ou bien agrémenter une soupe orientale. Et maintenant, ils sont partout, saupoudrant toutes les entrées, troublant la plupart des potages, accompagnant des viandes qui n'en demandent pas tant, s'étalant sur des fromages qui en perdent leur radicalité et composant même des glaces et des sorbets. On en est à présent certain, cette clique veut le pouvoir. Elle ne se cache plus et en briguant la présidence, elle le proclame. Cette attitude risque d'éliminer à terme la force première de l'APPA, la merveilleuse et antique variété odorante de notre association. Je vous demande donc de réfléchir et de voter, de bien voter, de voter non pas utile, mais de voter vital, de voter poétique. Je vous remercie.
Bravo.
Alors, évidemment, il y a appel à candidature pour remplacer M. Romarin. Il a sa favorite, c'est Mme Ozaï. Oui, Patrice Comon, vous voulez prendre la parole?
Oui, s'il vous plaît.
Vous
oui.
êtes qui, Mme Ozaï? Non, sûrement pas Mme Ozaï.
Non, si M. Basilic.
Ah, c'est pas
que
son
Monsieur
préféré.
Romarin ouais. a voulu traîner dans la boue.
Exactement, oui.
Et je m'insurge. Le Romarin n'a pas fait un travail de Romain pour la romantique, mais un travail de navet. Romain, bon à rien, disait-on en coulisses. L'aromatique est au pied de la plante, ce que la romantique est à la plante des pieds. Et le président sortant, j'allais dire le président serpent, dépasse largement ses oignons dans une course à l'échalote perdue d'avance. Qu'ils se permettent par copinage et népotisme de racines de pousser en avant ses pions et de servir la soupe à l'oseille, c'est son droit. Qu'il flatte dans le sens des feuilles la petite sarriette, sa protégée, nous ne pouvons pas vraiment lui reprocher. Que dire par contre de sa gestion catastrophique et littéralement herbicide de notre association pendant la dernière décennie? Il a laissé arriver le nippon wasabi, la citronnelle thaï, le chou chinois, l'argan marocain et le safran indien, sans broncher, en continuant ses petites magouilles, plaçant ses potes dans tous les potages clés chez les géants de l'agroalimentaire qui ont su largement l'arroser. Et un romarin bien arrosé, on sait que ça pousse, ça empiète, ça envahit, ça exagère. Oui, monsieur Romarin, vous avez voulu nous planter. Et d'une certaine façon, vous avez réussi votre plan en serrant la ceinture des plantes de serre, en tuant en prime les primeurs. Et, monsieur Romarin, vous n'aurez pas le droit de nous dénigrer comme vous le faites. Et balsamique, balsamique, je vous répondrai bien, balsamique ta mère, gros marin, qui n'a pas le pied éponyme pour tenir au tangage de la tempête sur les ondes, des micro-ondes et des fast-foods. Si l'on est sur le plat de chaque cuisinière, c'est qu'elle nous aime, je dirais même plus, elle nous préfère. Le basilic accompagne tout, même le Saint-Pierre. Et je dirais même plus, la basilique est à Rome. Notre verbe est franc comme notre verre. Notre équipe compte aussi sur Coriandre, qui est notre coriolan et a du cœur à vendre. Le vieux persil est lessivé. Trop marqué, la coriandre est plus androgyne, donc plus à la mode. L'origan de velours cache une poigne de fer. Monsieur Romarin, vous n'avez pas été motivé par l'appât, mais par l'appât du gain, et l'oseille n'était pas servie à table, mais en dessous de table. Alors, camarades, vous qui êtes l'herboristerie de demain, plantes aromatiques de peau, de serre ou de pleine terre, vous qui êtes au parfum, votez pour une équipe printanière, une équipe botticellienne qui vous propose la botte et la victoire, votez basilic, c'est basique.
Oui. Ah, il n'est pas bien parti, Romarin. Hein, à mon avis, il va faire un tabac aux élections, non?
Non, mais il suffit de l'acheter, c'est rien.
C'est ce qu'on croit. Hein. Demandez nos culture parcs d'un genre nouveau, Hypochondriac Land par exemple, parc pour les nuls ou le Charcuterie Land, découvert il y a deux dimanches avec son annexe Triple Pontage Parc. Ce sont des parcs de loisirs avec attractions en accord avec le projet. À défaut de voir le jour, ils existent très fort dans l'imagination des écrivains de la bande des Papous dans la tête et de l'imagination, ils en ont. Prenez le cas Jacques Vallée. C'est pas un homme d'argent, Jacques, mais des idées, il en a. Et on ne rappellera jamais assez qu'il a créé, en 1977, une superbe revue, Le Fou parle. Une revue qu'il a portée pendant des années, jusqu'en 84, avec André Rollin. Bon, Le fou parle, c'est fini, c'est dommage. Mais si vous tombez sur la collection Opus ou dans un vide-grenier, n'hésitez pas à acheter là, vous découvrirez des trésors. Eh bien, Jacques Vallée, il a une nouvelle idée, une bonne idée pour lancer un parc d'attractions. Je ne sais pas si le nom sera aussi beau que celui de sa revue, Le fou parle. Jacques Vallée, vous nous expliquez ?
L'idée, c'est la foire au verre.
Ah oui, mais un verre, ça va, deux verres, bonjour voilà. Les dégâts, non ? Attention,
oui.
Hein.
Oui. Oui, mais ce n'est pas les verres de terre, ce n'est pas les verres à boire, c'est non. Les verres de la poésie.
Ah !
Ouais. Alors, le site, déjà, oui. Où le situer ? Alors, On imagine des collines, des bois, des rivières, des lacs, un peu de brume, un havre de paix avec des arbres centenaires, des fougères, des cascades. Eh bien, Il y en aura, pour satisfaire les romantiques. Mais le projet est plus ambitieux. Le parc s'étendra sur une cinquantaine d'hectares et il se veut avant tout une gigantesque kermesse à la Breuilleule, avec toutes sortes d'attractions, de spectacles, de restaurations, car le poète est un bon vivant, qu'on se le dise. Je le vois bien implanté dans la forêt d'Ardennes, sur la route Verlaine-Rimbaud, ou dans le Doubs, dans la région d'Ornan, vous savez, c'est La patrie de Courbet.
Oui.
Alors, je vais donner quelques centres thématiques et quelques attractions. La foire au verre propose des exercices pour ceux qui sont curieux de la versification. Des pavillons sont consacrés aux principales formes poétiques que l'on pratique en s'amusant. Ainsi, le pavillon du sonnet est muni d'une piste de danse où l'on expérimente les subtilités des rimes embrassées, des rimes croisées, des rimes plates ou du sonnet à rebours sous la forme de quadrilles, de trios. Exercice prend tout son sens.
Oui, c'est ça, on fait à la fois bouger son corps et on crache un verre. Quoi,
oui, ben, oui, ou on répète des vers que l'on connaît, mais il vaut mieux improviser. D'ailleurs, le pavillon de la balade se présente à la Cyrano, soit avec l'épée, soit le sabre, soit le fleuret. Et à la fin de l'envoi, on touche. Ainsi, pour l'élégie, l'ode, l'épigramme, le madrigal, on nage, on grimpe, on lutte. Vous voyez, c'est une dépense physique.
Oui, ça se gagne, quoi.
La poésie est physique, c'est charnel.
Ouais.
Ce n'est pas du tout uniquement des conceptions malarméennes. Cependant, on peut se contenter d'écouter des lectures d'illustres spécialistes. Si on n'a pas envie de bouger,
on peut très bien...
Il n'y a pas de contrainte. Et puis, il y a une place principale, une sorte de place de la Concorde, qui est appelée Alexandrine Platz. C'est un peu un hommage à Heine, un peu. Oui, et elle est réservée à un concours d'alexandrins, justement. Chaque jour, le meilleur vers improvisé reçoit une récompense.
Ah oui.
Ah, oui bah.
Et c'est quoi la récompense ?
Et ça, bah, c'est une couronne de laurier.
Ah bon, très classique, mais ça fait toujours plaisir.
Et peut-être un bouc à la Jodel. Là, je crois qu'il y a eu une fête avec Jodel où on lui a remis un bouc pour le.
Vivant ?
Oui. Je crois que c'est Ronsard qui en allant à la fête, il a trouvé un bouc sur le chemin. Il a dit, ben voilà, tout à fait ce qu'il
faut. Ça fait toujours plaisir. Ça change des fleurs, quand même.
Pourquoi pas. Et donc, ce parc de loisirs n'est pas seulement ludique, éducatif, il est surtout interactif. D'ailleurs, la sollicitation se fait dès l'entrée. Les visiteurs récitant un poème par cœur bénéficient d'un tarif préférentiel. Ça incite quand même à venir un peu en s'entraînant.
Oui, mais alors, quelle que soit la longueur du poème, parce que parfois c'est facile de mémoriser 8 vers.
Mais c'est-à-dire qu'il faut
la légende des siècles.
Oui, mais non, c'est pas une histoire de longueur, c'est qu'il faut qu'il soit amusant. Plus il est amusant, plus le tarif est préférentiel.
Et plus la queue derrière s'allonge quand même.
Oui, exactement, oui.
Alors, la foire au verre offrira des lieux mythiques, chargés d'une certaine émotion. Citons la roseraie de Ronsard, avec une nuée de mignonnes qui accompagne les visiteurs pour voir les fleurs.
Ah, ça, c'est beau, ça, la nuée de mignonnes.
Et puis, le tour du lac embarque avec la sosie de Lamartine. Ça peut plaire.
Enfin. Puis, ça fait du travail pour les intermittents, non ?
Oui, il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs. Là, il va y en avoir dans la balade des balades, qui est une sorte de labyrinthe où l'on se perd seul ou à deux, et on tombe sur des surprises. Beaux endormis, la Lorelai.
Ah, ça, c'est facile à jouer, ça.
Beaux endormis, vous vous inscrivez, non ?
Oui, mais enfin, il se passe quand même des choses. Alors, soulignons encore de nombreux points festifs, avec le moult buvette, qui jalonne le parc de loisirs, placé sous la protection de la poésie gaie d'un Scarron, d'un Prévert, d'un Tardieu, d'un Queneau, d'un Fombeur, on retrouve l'organisation de véritables fêtes populaires. Et le vin, qui fait toujours bon ménage avec les poètes, coule sans modération. Tous les poètes bachiques, à travers les siècles, ont d'ailleurs leur taverne. Villon, Marot, beaucoup d'autres. Et surtout, François Ménard, en hommage à Patrick Beignet, qui écrivait « Je veux mourir au cabaret entre le blanc et le clairet ». C'est magnifique.
Si vous le dites.
Ah ben non, mais ça, c'est des vers que j'ai dans la tête depuis que je suis enfant.
Oui, ah bon.
Cependant, pour ceux qui sont abstèmes, alors ça, c'est un problème. Les abstènes, c'est ceux qui ne boivent pas d'alcool. Ah, eh ben, un kiosque leur réserve. Ben, pour les abstènes, un kiosque leur réserve l'œuf complète de Boileau. Enfin, il y a des tas de possibilités. Voilà.
Ah oui, non, il faut chercher de l'argent. Quoi. Enfin, il faut plutôt en trouver.
Oui, moi,
parce que chercher, on cherche toujours.
C'est pas mon problème.
Oui, bah écoutez, on espère que vous allez en trouver quand même. C'était une idée tellement merveilleuse, cette histoire de foire au vert, que le lieu a vu le jour. Et ça ne m'étonne pas du tout, moi, mais vraiment pas du tout. Je ne sais pas, Hervé Le Tellier, si vous avez fréquenté les lieux ou pas. Une petite visite.
Ah oui, oui, j'y suis allé, j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs écrit un poème là-bas.
C'est vrai.
Bah oui, c'est quand même le principe. Hein.
Oui. C'est donc, vrai, mais tout le monde n'ose pas se lancer.
Ah non, mais hein. Ça fait rien. J'étais très influencé. Et j'ai lu un poème de Queneau qui m'a beaucoup troublé. C'est là-bas, l'instant fatal. Et je me suis dit que j'allais faire l'instant fatal des vers.
Un à la manière de, alors.
Oui, enfin, c'est j'ai été très influencé. Hein.
C'est pas un copier-coller, dites-moi.
On peut pas.
On peut pas. Hein.
On peut pas.
Oui.
Lorsque nous entrerons, la gueule de Traviole, dans l'empire des vers... prononçant les mystiches et autres fariboles qui constituent les vers, ressuscitant les formes, les sortant du formol où s'endormaient les vers, nous aidant de l'absinthe, ingurgitant l'alcool qui fait naître les vers, quand nous aurons trouvé l'ellipse et l'hyperbole qui font les jolis vers et que nous aurons fait rimer bol et obol, croyant créer des vers, quand nous les hurlerons, que tremblera le sol sous l'orage de vers, quand nous retrouverons l'usage des paroles que nous volaient les vers, que nous regretterons nos plates paraboles inventées pour nos vers et nos bouches usées par tant de phrases molles imposées par les vers et nos mots asséchés par tant de rimes folles ordonnées par les vers et notre imaginaire noyé sous la coupole basse et lourde des vers, alors... l'arbre fourchu sera la cabriole où tournoieront nos vers, et notre poésie assez peu tartignole verra mourir nos vers, et il sera bien temps de prendre la bagnole, loin de la foire aux vers, et des hommes en blanc nous mettront camisole.
Oh, c'est beau. Magnifique. J'espère que vous lui offrez un abonnement pour les 10 prochaines années, parce que quand même...
Oui, j'irai le chercher sur le cabanon.
C'est notre Hervé Le Tellier qui a écrit ça. Ah oui, non, mais c'est un bon visiteur, hein,
ah, oui,
mon avis.
Magnifique.
Ouais. Oui, je ne sais pas, Patrick Beignet, vous connaissez la foire au vert, vous aussi?
Oui, je suis employé là-bas.
Ah.
Mais malheureusement, je n'ai jamais rencontré monsieur.
Ah bon, c'est dommage.
Ce qui m'a fait très plaisir, oui, parce que ça a peut-être changé complètement mon destin.
Ah, parce que là, ça ne s'est pas bien passé.
Ça ne s'est pas bien passé, non.
Ah,
non.
Oui. Oui.
Donc, je suis employé, je suis là depuis 8 jours.
Ah oui, ça fait pas longtemps.
J'ai été venu parce que je suis mélancolique et que la poésie, pour moi, c'est des types qui se suicident.
Ah, oui.
Genre Mayakovsky, Chatterton, ou ce grand niais de Lamartine qui se jette dans le lac pour se suicider par amour. Bon, le poison, la corde, le pistolet, la noyade, voilà tout ce que j'aime dans la poésie.
Ouais.
Or ici, d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Au contraire, toute la journée, on voit triompher la joie et la ripaille des poètes bons vivants.
Oui.
Quelle expression affreuse! Des kermesses à la Bruegel, le vin qui coule sans modération, des nuées de mignonnes autour de Ronsard. Mmh. Si j'avais bien lu tout ça avant de signer mon contrat, je serais pas venu. Et toute la journée, c'est moi qui suis chargé de ravitailler les tavernes du parc, d'apporter des tonneaux de vin et de bière, de faire griller des saucisses, etc. Oui. Je suis complètement dégoûté. Donc voilà 8 jours que je suis là, c'est bien payé, mais cette conception vitaliste et joyeuse de la poésie me dégoûte. Une poésie qui n'est pas triste, c'est pas de la poésie.
Bah, il faut aller à Suicide Park, je crois qu'il y en a un qui est pas très loin.
Il y a tromperie sur la marchandise.
Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Vallée? Quand vous l'avez recruté, il avait le profil ou pas?
Ben, c'est pas moi qui me charge des recrutements, moi je suis le concepteur.
Ah, uniquement.
Et puis,
au-dessus de ça, monsieur.
J'ai dans l'esprit que cette émission avait quand même parrainé un jeu qui s'appelait « Non, la poésie n'est pas ennuyeuse ».
Ouais.
Donc, cette espèce de gaieté était l'essence même.
J'ai essayé de la montrer dans cette poésie d'une gaieté sans bord.
Elle est très gaie, ta poésie.
Bon, alors pour le moment, c'est moitié-moitié. Hein. Eva Almassi, vous êtes visiteuse.
Je suis visiteuse, mais je viens que le dimanche, hein, mais avec une idée derrière la tête que je fais métier de traductrice. Mais attention, traductrice-interprète de l'armée, et non de malarmée, ni de rien de larmoyant.
Oui.
C'est beau, mais presque trop beau. Si j'ai grandement apprécié Alexandrine Platz, mon plaisir était gâché par le comptage. 11 ou 13 pieds, ces bestioles de verre devenaient des 1000 pattes vite fait. Heureusement, un nouveau stand venait d'être inauguré exprès pour les traductions. Le stand où l'on sacrifie la forme pour garder les images. Mmh. Et là, c'est grandiose, le grand cinéma plein air des images poétiques. Alors ça, on
ne s'en lasse pas.
Avec plein les yeux. En premier, on sacrifie les rimes. Il y a donc, on a ressuscité la guillotine et on coupe la terminaison des mots. Parce qu'en premier, c'est les rimes qu'on sacrifie.
Oui.
Quand on traduit. Deuxièmement, on sacrifie le rythme, en tout cas le tempo, mais on garde toujours donc l'image.
Ce qui est déjà ça.
Oui, toujours ça de sauver. Hein.
Mais ainsi, le tempo sacrifié à la cafétéria du parc, les décas deviennent des octos.
Oui, évidemment.
Bon,
évidemment.
Ben voilà. Autre nouveauté, cher au traducteur, le stand des contresens. C'est très physique, les contresens. On se heurte à des Rimbaud, d'autant que leur bateau reste toujours ivre dans toutes les langues. Manquent toujours les vers libres, les vers blancs et les illuminations. Les poètes voyants, ça ce serait bien
Regardez Hervé Le Tellier, il en est sorti tout illuminé quand même. Et on est venu le chercher sur un brancard, non?
Mais les poètes voyants, c'est un bon... Vous auriez des tentes, et sous ces tentes, ben, les poètes voyants lisent dans vos lignes de la main.
Vous aviez vu tout ça, Hervé?
Non.
Non, hein, vous êtes concentré sur
Moi,
ce que vous aviez à écrire,
oui.
Mais quand vous allez dans la fumerie des illuminations, vous pouvez avoir ces visions, hein, quand même.
Ah, elle n'a pas dû fréquenter la fumerie, hein. C'est pas son genre, Eva Almassi.
Non.
Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas como un blanco respiro, volví a vivir. Una noche noche sin luna en el cielo. En tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé. Una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana. Como un niño entregado te di mi amor. El cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo.
Sin Luna par Daniel Melingo.
Kellemes vasárnapot a papukkal a fejben.
En français, Eva, les papous, c'est dans la tête et sur France Culture. Et dans notre collection de lettres rares et culturelles, papou, forcément papou, deux petites nouvelles font leur entrée aujourd'hui dans notre catalogue, imaginées par Dominique Muller et Jacques Jouet. Une première lettre tout à fait inattendue et liée en quelque sorte à la grande histoire, c'est bien ça Dominique?
Mais pour moi c'est très inattendu, c'est une très grande personnalité puisque c'est Louis XIV quand même.
Ah oui, qui... on fait difficilement mieux
quand
même.
C'est du solide.
Ou pire, je ne sais pas. Oui.
Qui écrit au directeur de la Comédie italienne qui s'appelle Évariste Gherardi, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est le directeur de la Comédie italienne. Et il lui fait porter la lettre à toute allure au Palais Royal le 3 mai 1697.
Oui.
Ni avant ni après. Maestro, c'est de votre faute aussi. Rire de Madame de Maintenon et maintenant pleurnicher parce que l'on vous chasse, que voulez-vous que l'on y fasse ? L'État, c'est moi, d'accord, mais chez moi, l'État, c'est la marquise. Pas plus sotte qu'une autre, elle s'est reconnue dans votre comédie « La fausse prude » et « Allez à Jacta Est, dehors, expulsée du balai du vent ». Certes, tout le monde l'a reconnue, preuve que vous fîtes mouche. Moi-même, j'ai bien ri, sous cape, car je prends toujours une cape et cette précaution, même en plein été, pour aller voir vos pièces tellement plus drôles que celles des Feux, Molière et Corneille. Lui surtout, comique, quelle illusion il se faisait. Mais je ne vais pas vous faire un dessin. Avec une prude, surtout une fausse qui tartine tout de sa morale, on ne peut rire qu'à Saint-Cyr, au tableau vivant de la nativité. La mouche, elle la prend même aux tragédies de Racine. Moi, je suis le coche autour de qui elle bourdonne et j'en ai ma claque, comme on dit, je crois, chez les comédiens. Régner n'est pas facile. Entretenir ce château et sa cour est malaisé. Contenter Françoise est ardu. Se garder des chroniqueurs fielleux à la Saint-Simon ou Sévigné est ingrat. Se taper les sermons de Bossuet est rude. At last but not least, comme vous dites en italien, rien n'est facile pour un grand roi. Soleil côté cour, soleil côté jardin, c'est mon rôle au théâtre de la vie, épié par la foule du lever au coucher. Soleil, mon œil. Loulou, le petit Louis, aspire à se laisser aller parfois, les doigts de pied en éventail, les doigts dans le nez. Est-ce demander la lune ? Aussi votre expulsion, brutale je vous l'accorde, mais un monarque absolu a des obligations, n'a pas forcément que des mauvais côtés. Attenzione che là, je vais parler un poco l'italiano, perché vous avez la même adresse que les comédiens français, et si c'est mascalzone et m'intercepte, je suis fouti, fichuto. Ma tant pis la barba, je n'ai pas les mots. Après tout, le roi c'est moi, et s'ils ne sont pas contents, je les jetterai en prison avec mon frère. Plus on est de masques de fer, plus on rit d'eau de fer. C'est une blague, monsieur. Voyez que j'ai une vis comica à plusieurs tours. Oh oui, oh oui. Depuis tout petit, je fais le guignol. C'est un mot inventé pour moi par l'archevêque de Lyon, qui, sous prétexte qu'il est primat des Gaules et moi, fils aîné de l'Église, se prend pour mon beau-père et se permet des familiarités. En gros, je sais me déguiser et me moquer des puissants quand il le faut. J'adore faire l'arlequin et le polichinelle, c'est mon secret. J'en viens à ma requête. J'aimerais, pure formule de courtoisie pour un monarque absolu habitué à être obéi, sauf que je vous ai déjà chassé et que je ne peux donc plus vous serrer la vis comica, donc j'aimerais vraiment laisser sortir mon polichinelle du tiroir et le produire sur scène avec vous autres. Il me plairait de jouer, de libérer mon talent pour la bagatelle, la gaudriole, mot inventé pour moi en 1761 par Loulette Lavallière. Je veux monter sur les planches, faire les foires de ville en ville, les carnavals de rue en rue, entendre le public m'acclamer sans flatterie. S'il me raillait, j'apprendrai ce que ça fait en vrai. Mais rassurez-vous, je me retiendrai. Je n'enverrai personne aux galères en sujet ordinaire. Oh, écrire sujet ordinaire, rien que ça me remplit de joie. Vous allez peut-être m'objecter, toutefois je ne vous le conseille pas, que j'ai déjà fait le mime et le danseur chez Lully. Mais c'est loin, je vais sur mes 60 ans, l'heure est venue de brûler mon reste de vie par les deux bouts et non en cierge chez les dévots. Dorénavant, je veux me lâcher, me la jouer, me la péter. Figurez-vous qu'il me faut le faire en cachette la nuit, dans la galerie des glaces désertes, où je vois alors tous vos personnages gambader de miroir en miroir. Ce grand acteur et ce bouffon, ce pitre, ce fourbe, ce poltron, c'est tout moi. Et n'allez pas non plus objecter que mon nez bourbon sera reconnu sur scène. Quoi, qu'est-ce qu'il a ce nez? Avec un masque, le tour sera joué. C'est votre but, non, jouer de bon tour. Avouez que vous serez servi. J'ajoute que j'ai un beau brin de plume. Je vous tournerai une prose, pas piquée des vers. À la fin de la représentation, je passerai avec ma coiffe pour la quête. Un sou est un sou. Et si vous saviez ce que me coûtent les guerres, les citadelles, les navires. Enfin, vos actrices sont des professionnelles. Et on sait ce que professionnel veut dire sans vouloir heurter la vertu de ces demoiselles. Il se trouve que la vertu, j'en ai jusque-là, par-dessus la perruque. Reste à définir les dates et les moyens de quitter la cour en catimini. J'ai un agenda bourré, mais si je suis prévenue assez tôt, je me débrouillerai. Voilà, chers confrères, je fais porter cette lettre en hâte et en carrosse pour que vous puissiez me répondre avant d'avoir plié vos hardes et décampé. Je saurai vous rendre l'exil agréable ou déplaisant, c'est selon. Gigi Borbone, c'est mon nom de scène. Préparez les affiches.
Oh, elle est magnifique, cette lettre. Et restée inconnue jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Mais allez savoir, peut-être que c'était un très grand acteur.
Peut-être qu'il a joué partout.
Ah, oui. Ah, puis moi, je suis ravie de voir que Louis XIV maniait le zeugme avec dextérité. Je vous la ferai porter, cette lettre, en hâte et en carrosse.
Oui, mais je vous dis, c'est un titre d'époque, ça. D'après ce que j'ai vu. Oui, oui, oui.
Ah, oui, 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 oui. Est-ce que Jacques Jouet serait Évariste, le directeur de la Comédie italienne?
Si.
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 Oh, buongiorno.
Ben oui.
Et il répond, il a répondu à Louis XIV.
Bien sûr, il a répondu à Louis XIV.
Tout de suite. Qu'est-ce qu'il lui a dit alors?
Ma Luigi! Non, mais sérieux, non? Gigi Borbone, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux faire de la comédie? On aura tout entendu. Ah, c'est une professionne de merde! Ma demande à la presse de Chouminette!
Ouais, oui.
Bon, d'accord. Mais je t'aurais prévenu. Primo, tu es excommunié. Secondo, tu ne seras pas enterré à Saint-Denis. Mais à Aubervilliers, dans une fosse commune. Et sans un seul requiem ou couré en costume. C'est peut-être ce que tu souhaites d'ailleurs. Terzio Gigi Borbone. Ma, le pseudonyme est trop transparent. Garde ton nom, Luigi. Louis, c'est très bien. 14, c'est le nombre parfait, ce qu'on ne dit pas. Et en avant, comment 14? Magari, Luigi. Tu sais, faire des tournées en ce moment dans la Francia qui crève la famine. À la campagne, moi, je ne sens pas trop pour ça, hein? Non. Évidemment, si tu n'es plus à la direction de lo Stato, ça risque d'améliorer les choses. Mais quando ça s'améliorera, hein? Et si tu n'es plus à Versailles, ça va affoler la cour. Ascolta, senti, d'accordo. Ma allora, cambiamo radicalmente nos conditions, à toi et moi. Tu fais la commedia? D'accordo. Et io fais le roi. J'ai des petites choses à dire à ta copine, là. Francesca, dit maintenant. Io l'apprécie molto, molto. Tu qui la conosces bien, tu peux me dire comment je peux m'y prendre pour la prendre?
Oui.
Et puis, Quando tu en auras assez de la vaca arrabbiata, on revient à notre point de départ. D'accordo? La bocca del lupo.
Eh si, bocca lupo, exactement. Eh si, d'accordo, plutôt deux fois qu'une, quelle chance.
Mais quelle chance, alors oui. Qu'est-ce qu'il répond Louis XIV?
Eh bien, il répond ça plutôt deux fois qu'une, en effet.
Oui, et c'est parti.
Et c'est pas, ils l'ont, à mon avis, ils l'ont fait. En plus, l'autre veut de la maintenant. Et pendant ce temps-là, Louis chante à Naples, voir Naples mourir. Ils vont... c'est... Oh, il est fou de joie.
Con lui volando.
Una notte a Napoli, par Pink Martini. Alors, dans le genre qui grince, irrite, vous agrippe, vous agace peut-être, il y a le pamphlet. Celui qui l'écrit se défoule avec toute sa mauvaise foi, mais l'autre, le pamphlétaire qui sommeille en nous, n'est pas toujours d'accord et prend le contre-pied de ce que le premier ne supporte pas pour écrire à son tour un pamphlet contre le précédent. Exemple, avec Pascal Fioretto et Jacques Bertrand, pas du même avis du tout, ces deux-là. On écoute d'abord le point de vue de Pascal Fioretto sur un certain sujet.
Je voudrais vous parler du senior, enfin des seniors en général.
Vous êtes contre les seniors ?
Ah, c'est pas si simple, mais vous allez voir que les griefs sont quand même nombreux quand on prend la peine de les regarder. Le senior, tous les jours, à 6h54 pétante, après la météo de télématin, le senior réveille la copropriété avec son aspirateur sur coussin d'air, découvert au téléachat. Puis, il donne un bon coup de plumeau électronique, acheté par correspondance, au rideau du salon et aux photos de mariage. Pendant ce temps, la senior nettoie le balcon et le chien au Vaporetto, cadeau de l'abonnement à Notre Temps. Puis, elle prend de l'avance sur sa journée en faisant mijoter la blanquette de midi dans le wok électronique repéré au magazine de l'objet et elle épluche au couteau électrique les légumes de la soupe du dîner. Ces tâches urgentes accomplies, le senior et madame peuvent enfin se poster au balcon pour espionner les voisins qui partent bosser. Ensuite, ils sautent de concert dans leurs chaussures Mephisto et vont ralentir les files d'attente à la poste ou relancer la croissance chinoise au magasin de gadgets du coin. Après des années de guerre, au cours desquelles ils ont survécu en fabriquant leurs chaussures dans du carton et en mangeant leurs semelles au bain-marie, les seniors se sont laissés ramollir par un système de protection sociale qui leur a fait prendre plein de triglycérides superflus. C'est pourquoi, au terme d'une vie de labeur, passé en costard-cravate ou en salopette, le senior se permet enfin un look Miami Beach, polo coloré, jogging fantasy et Nike Pump Fluo, comme on en trouve qu'en Californie et sur la promenade des Anglais à Nice. Eh bien, c'est dans cette tenue bigarrée et confortable qu'on le croise, chariot à la main, déambulant paisiblement dans les galeries marchandes, où il profite des affaires de la foire au plastique, dans les salles d'attente des dentistes, où il vient se faire poser des dents en céramique de tungstène, et dans les croisières Patrice Delbourg, où il pille méthodiquement le buffet de crudités à volonté. Oui, au passage, je ne sais pas si vous saviez, mais Patrice vient de lancer une gamme de croisières.
Non, je ne savais pas, je la prends avec grand étonnement. On l'embrasse, oui.
Quoique n'ayant strictement rien à faire de ses journées, à part les mots croisés géants de Paris Match, le senior est chroniquement débordé car membre d'un tas d'associations. Les Amis du Diabète et de Julien Lepers, les Randonneurs Arthritiques, la Chorale des Opérés de la Cataracte, autant de lieux de convivialité où il tire les rois de janvier à mars, joue au Scrabble et échange des livres de généalogie ou sur le rhumatisme du côlon. Quand son planning se relâche un peu, le senior en profite pour fabriquer des étagères à sa femme, qui y dispose aussitôt sa collection de calèches d'impératrice, édition Atlas, ses machines à coudre et son encyclopédie universelle de la confiture, reliée pleine peau. Pour se remettre de sa vie trépidante, le senior part régulièrement en cure thermale, l'un des derniers lieux où la modernité le tolère. Devant la fontaine d'eau sulfurisée, excellente pour le foie, il sympathise avec d'autres seniors en peignoir qui l'invitent à boire des pastis, excellent pour l'intestin. Au bar de l'hôtel des Deux Sources, les seniors font tourner les photos de leurs petits-enfants pour qui ils sont des dieux vivants. Ils détaillent les symptômes de leurs arthroses, cause du monde d'aujourd'hui, s'inquiètent des cartes postales à finir absolument avant la levée de 19h. Songent-ils que leurs insignifiantes nouvelles et leurs mots de banale tendresse, tracés d'une écriture appliquée mais déjà tremblée, et que nous parcourons distraitement, nous manquerons bientôt à jamais? En veulent-ils, ne serait-ce qu'un peu, à ce monde qui voudrait tant pouvoir les cacher? Dans le soleil faiblissant, ils espèrent secrètement que tant qu'ils s'habilleront de couleurs voyantes et gaies, qu'ils auront les cheveux bleus et qu'ils feront des mots fléchés, la mort ne les remarquera pas.
C'est terrible ce texte, hein, quand même, parce qu'à la fois on a l'impression qu'il est un peu jaloux, non? Parce qu'il oui. voudrait en avoir des appareils comme ça, des wok, des balcons, des... Et à la fin, on comprend que quand même il y a une sympathie pour les seniors. Dont personne ne veut plus.
Et oui, sauf la bourboule.
Moi, j'aimerais tant tirer les rois de janvier à mars.
Mais inscrivez-vous, il doit y avoir un club de seniors près de chez vous.
Oui, ça, c'est une activité assez intéressante. C'est bien.
Encore quelques années.
Tout ça, c'est pour être la reine.
Mais j'ai de l'espoir, alors.
Ouais, la reine des pommes. Ça vous irait bien. Dites-moi, Jacques Bertrand, qu'est-ce que vous pensez des seniors, vous?
Ben les seniors, pour moi, c'est des gens comme tout le monde, moi.
Ben voilà.
Moi, ce qui m'emmerde, c'est les jeunes.
Oui, alors, vous écrivez contre, vous les attaquez?
Et pourtant, je suis resté très jeune. Mais c'est, comme assurait Antoine Blondin, je suis resté très jeune, entendons-nous, ajoutait-il. Je ne suis pas ce vieillard qui a gardé l'esprit jeune, je suis ce jeune homme dont l'enveloppe s'est fanée.
Moi,
c'est pareil, je suis resté très jeune. Remarquez bien que je le déplore parce que je déteste la jeunesse. La jeunesse, cette maladie provisoire, heureusement curable. Le temps de la guerre aux boutons, le temps de la naïveté et des ambitions puériles, devenir capitaine des pompiers ou président de la République, gagner le Tour de France ou le tournoi de Roland-Garros. Et puis, la jeunesse est malheureuse, bien sûr. Paul Nizan l'avait dit, 20 ans est loin d'être le plus bel âge de la vie, mais pas seulement 20 ans, 19, 18, 15, 12. À cet âge, on n'a guère que des soucis, des contraintes, des inquiétudes, des devoirs de vacances. Et si le monde, c'était vraiment celui que décrivent les parents? Et si c'était encore pire? La jeunesse, ça ne se lève pas tôt, mais ça se couche très tard. Ça met la musique à fond, parce que ça ne supporte pas de s'entendre parler. Et le pire, ça ne se doute même pas que ça va vieillir. Et un jour, ça se fera traiter de senior. Par une nouvelle jeunesse qui n'aura rien vu arriver. Et on se mettra à détester la jeunesse. Sauf qu'on s'inventera pour frimer des beaux souvenirs de jeunesse qu'on racontera interminablement pour embêter les petits-enfants.
Je connais.
À quoi tu penses, Lucas?
Je pense que dimanche 30, on va célébrer à la Maison de la Radio les 30 ans des papous, avec tous les papous et tous les auditeurs. Et du coup, je me demande, qui apporte le gâteau?
Ah, je ne sais pas, Lucas. Je ne sais pas s'il y aura un gâteau. Ce que je sais, c'est que ce sera la fête de 11h à 13h, de 15h à 17h, avec tous les papous. Vous entendez bien, tous. Avec Gabriel Godard au piano aussi, et les sardines. Avec Pablo Gignoli au bandoneon. Et avec un cadeau, et même 30 cadeaux. Cadeaux à défaut de gâteaux. 30 toiles de Ricardo Mosner à gagner. L'eau de la tombola gratuite des 30 ans. Et puis à l'heure du déjeuner, une rencontre dédicace autour de nos trois livres collectifs « Des papous dans la tête ». Alors tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, à la page « Vie du club des papous dans la tête » et sur notre page Facebook. Réservation sur le site maisondelaradio.fr en minuscule tout attaché, maisondelaradio.fr. Dimanche 30 novembre, les papous ont 30 ans. Vous écoutez France Culture, au micro Françoise Tressard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, un joli dimanche, et jeu avec un impressif japonais, en compagnie de Jean-Bernard Pouy, Dominique Muller, Véronique Brindeau. Le joli dimanche, façon Homer, un joli dimanche offert par Jacques Jouet.
Le Péléide s'est réveillé, les doigts de pied rosis par l'aurore et les ongles carmin d'un vernis matinal. Le camp est endormi, longeant l'immense mer couleur de vin et de peau de chèvre. Le cœur d'Achille est fendu par le milieu d'avoir vu tant de ses compagnons rejoindre l'Hadès avant leur grand âge. Aujourd'hui, c'est la trêve dominicale. Elles sont au repos, les armes divines, trempées dans des jarres d'huile en attendant de les réastiquer. La poussière aussi se repose le dimanche, puisqu'aucun char des armées humaines ne la soulève sous ses roues. Le beau dimanche alors que voilà. Mais le divin Achille alors s'adresse à lui, Achille aux doigts de pied plus léger que ses pieds mêmes. Ô dimanche, qu'on me traite de chien boiteux ou de lézard, si je cède à la mollesse de ton étoffe soyeuse, à d'autres de telles langueurs et voluptés, l'animal le plus épique qui soit, j'ai nommé le porc épique, est-ce qu'il cesse de piquer le dimanche? Et l'oursin, si le talon d'Achille se pose par mégarde sur l'oursin du dimanche, est-ce que les défenses de l'oursin ne vont pas s'insérer dans la chair pour le meurtrir? Aux armes, Achéens, debout là-dedans, debout les morts. Il n'y a pas de dimanche qui tienne. Est-ce que la haine des dieux adverses, si par malheur elle nous vise, se révèle le dimanche inefficiente? Sous ma lance, bientôt jaillira la blancheur de tes plumes pâteuses, ô dimanche. Plus absurde qu'un cheval de bois pénétrant dans la ville, et la gueule de bois de l'orgie d'hier soir. La gueule de bois qui donne aux guerriers et à leur chef la langue de bois du porteur de glaive à l'état de larve et sans nerf. Dimanche, ô le jour qui se bat comme un manche. Accélère ton passage, accélère ton vol, dissous-toi dans la ronde des jours ouvrables, les jours bénis où mon glaive à garde d'or et de gemmes ouvre les plaies de l'ennemi. Alors dans ta douleur, tu seras impuissant dimanche, et le dépit rongera ton cœur.
Oh, très guerrier en permanence.
Il y a des moments plus faibles, hein, quand même, debout là-dedans. Debout là-dedans, c'est moins bien que le reste. Mais c'est bien quand même. Hein.
Dernière séquence de ce numéro de Papou dans la tête, le jeu avec les impressifs. Impressif, c'est le mot par lequel on nomme une onomatopée japonaise, qui est un mélange d'impressions, de sensations, d'odeurs parfois, de bruit. L'impressif est riche de sens et permet un petit peu, comme dans notre jeu des mots nouveaux pour le dire, de raconter beaucoup en très peu de mots, en deux mots. Souvent, l'impressif est doublé, comme dans Oula Oula, Choulou Choulou, Dolo Dolo, Boya Boya. Et c'est Véronique Brindeau qui nous a fait découvrir ces impressifs. Véronique, elle traduit le japonais, elle enseigne l'histoire de la musique ancienne japonaise aux langues zo, et elle est passionnée de théâtre no. Elle joue aussi avec nous, parce qu'elle est un peu papou, Véronique. Et c'est l'heure donc de jouer avec un nouvel impressif. Allez, quelques notes de parole-parole version japonaise pour l'ambiance.
こんなに近くても
Butsu Butsu, Dominique Muller, Jean-Bernard Pouy. On joue avec Butsu Butsu, un impressif qui nous a été offert par Véronique Prindeau. Ça se prononce bien comme ça, hein. C'est un U en fait. Enfin, c'est un U dans la traduction qui en a été faite, évidemment. Et on le dit où ? À quel sens ça pourrait correspondre ? Butsu Butsu, c'est très joli déjà. Hein. On a l'impression que c'est Butsu Butsu.
Ça, c'est gai.
C'est gay. Hein.
C'est assez gay, mais un complexe. Enfin, compliqué, du moins.
Ouais.
C'est cette courte mais irrépressible sensation où l'on sait qu'on va être pris d'un fou rire à contre-temps. Par exemple, pendant un enterrement ou une cérémonie sinistre. Ouais. Juste avant d'éclater, on le sent.
C'est terrible.
C'est terrible. En même temps, bon.
Ça arrive.
Ça dédramatise un peu.
Surtout au cimetière, en effet.
Il faut dédramatiser.
Bon, Dominique Muller, on est dans cette irrépressible envie de fou rire.
Ah
avec
non,
vous.
Bien au contraire. Oui. Butsu Butsu, c'est rêver de partir pour un voyage lointain, voire pour l'exploration d'une terra incognita, tandis qu'on fait la vaisselle dans la kitchenette d'un logis banal, d'une rue triste, d'une ville terne.
Ah oui, c'est la triste réalité et le rêve.
Oui, voilà, exactement.
Oui, mais ça, c'est les coups, attraper les fous rires.
Je suis désolée, ça peut faire rire.
Surtout, ça fait rire les autres, en général. Oui.
Non, mais c'est déjà bien de pouvoir s'évader par le rêve
oui,
quand on a une vie sexe, quotidienne.
C'est voilà, c'est du bout de sous du tunnel.
C'est-à-dire quand... Oui,
exactement.
Et on sait que ça n'arrivera jamais. Il y a ça
on
aussi.
On rêve que ça va arriver, mais on le sait au fond de soi. Que ça n'arrivera jamais.
Ah oui, c'est triste.
Oui.
Alors évidemment, Véronique Brindeau, avec Butsu Butsu, on est dans deux univers tout à fait différents, entre le fou rire de Jean-Bernard Pouy, l'envie d'évasion, de quitter le quotidien, un quotidien un peu ennuyeux.
Un petit peu des deux.
De Dominique, un peu des deux.
Avec, dans l'idée d'une sorte de jaillissement, on y est.
Oui.
Et puis en même temps, quelque chose contre lequel on rumine un peu, on sent qu'on parle entre ses dents en faisant la vaisselle, la marmotte, on n'est pas très... On ronchonne quand même.
Ah voilà, il y a cette notion. Ah oui, donc on n'est pas si loin, hein. C'est intéressant ça. Patrice, comment vous avez l'air inquiet ? Cette définition de Butsu Butsu ne vous conviendrait pas ?
Ah non, je suis effrayé, oui. Effrayé, parce que pour moi c'était...
Joli.
C'était enfantin, c'était naissant, c'était un
joli... Oui, c'est ça, moi je voyais le Butsu dedans.
Oui, c'est accablant. C'est... ce truc physique là, c'est quelque chose qu'on redoute. Je redoute énormément.
Ouais.
D'éclater de rire... En permanence, ça m'a coûté très très cher dans ma vie.
Ah oui, on a cru que vous vous moquiez.
Oui, mais je me moquais vraiment, mais il ne fallait pas que ça se voie.
Revenons à Jean-Bernard Pouy. Donc, dans ce sens de l'envie irrépressible de rire, Jean-Bernard Pouy, vous avez trouvé des traces littéraires. Évidemment, parce que certains grands auteurs se sont intéressés à Butsu Butsu.
J'ai trouvé chez Boileau.
Ah oui, Nicolas.
Le repas ridicule.
Oui.
Alors, c'est un extrait, évidemment.
Bien sûr. Enfin, bon, vous auriez pu tout apporter. C'est magnifique, Boileau, oui.
Quand un des conviés, d'un ton mélancolique, lamentant tristement une chanson bachique, tous mes sots à la fois ravis de l'écouter, détonnant de concert, se mettent à chanter. Et là, n'en pouvant plus, en plein Butsu Butsu, je me penche en avant et me mets en dessous d'une nappe douteuse qui me sert de rideau.
Ah bah oui, il peut se protéger de son fou rire, hein, pour pas qu'on le voit.
Il sent que ça vient, donc...
Oui, oui. Vous reconnaissez le style de Boileau ?
En tout cas, j'ai trouvé un exemple de la même époque, chez Molière.
Ah oui.
Qui prouve bien que c'était attesté dans l'école des femmes, tout simplement, actuellement scène 4. Arnolphe, que faites-vous dans là ? Agnès, je lavais la vaisselle, songeant boutsou-boutsou au vol d'une hirondelle. Arnolphe, au-dessus, au-dessous, votre raison défaille. Cessez donc de rêver au galant de Versailles. Restez sur ce fauteuil où le petit chat dort et vous y resterez toujours jusqu'à ma mort.
Oh oui, mais alors c'est terrible ça. Effectivement, on sent qu'elle ne s'en sortira
c'est
jamais.
C'est l'illustration parfaite du boutsou-boutsou.
Oui, absolument. C'est la définition telle que vous nous l'avez donnée, Tu rapprochement plus significatif, Véronique, non ?
Là, je crois qu'on reste dans cette tonalité, oui, d'une forme de rancune qui s'exprime, oui. Oui.
Un désenchantement, c'est le boulet, quoi. La vie comme un boulet, voilà. Oui.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une notion de larmes dans Boutsou-Boutsou ? Non ?
Il y a quelque chose d'aquatique, éventuellement.
Ah, oui.
Un crocodile, c'est...
Mais pas plus.
Dans une casserole, plutôt.
Hein. D'accord. Non, parce que quand on a un fou rire, on rit aux larmes. Et quand on rêve dans sa cuisine à des évasions possibles, on pleure. Quoi.
Et puis il y a de l'eau dans l'évier aussi.
Exactement.
Mais si le sentiment entretenu d'un mécontentement produit une allergie, nous pourrions retrouver un des sens du boutsou-boutsou.
Ah, est-ce que vous nous proposez une allergie, Jean-Bernard Pouy, dans votre autre citation ? Non.
Mais c'est toujours dans ce côté, on sent qu'on va avoir un fou rire, donc il faut faire quelque chose. Surtout dans une situation où il ne faut pas rire. Alors j'ai retrouvé les manuscrits de Je me souviens de Pérec.
Ah,
et il en avait écrit un qu'il a supprimé pour la publication. Qui est, je me souviens qu'à l'enterrement de Raymond Queneau, dans le vieux cimetière de Juvisy, j'ai été pris d'un boutsou-boutsou qui m'a forcé à m'éloigner de quelques mètres dans les allées adjacentes. Et là, j'ai ri intensément devant la tombe d'un certain Anatole Argouache, ce qui était déjà drôle en soi.
Il l'a probablement écrit, en tout cas, il aurait pu.
Ah, il l'a probablement écrit, oui.
Dominique Muller.
Alors moi, j'ai une poésie de Mallarmé, assez peu connue. Enfin, qui reprend son thème habituel, justement, la fuite. Un ennui, désolé par les cruels éviers, croit encore à l'adieu des lointains terre-neuviers. Et peut-être les mâts, rêveurs boutsou-boutsou, me feront-ils voguer vers Corfou, Tombouctou, perdu, sans mâts, dans ta triste cuisine, entends mon cœur, oh, du boutsou-boutsou, le spleen.
C'est beau. Ah oui, c'est aussi c'est beau que la chair est triste, hélas. Oui. Non ?
C'est plus beau.
Ah oui.
Ah bah, il y a du boutsou-boutsou.
Je me pose quand même une question. Le boutsou-boutsou, dans votre sens, Dominique, c'est toujours au-dessus d'un évier. Ça ne peut pas être quand on fait du repassage.
Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé d'exemple.
Non,
ça peut probablement, il doit y avoir des sous-groupes quand on fait le repassage.
Ce n'est pas uniquement lié à faire la vaisselle. Quoi.
Mais la vaisselle, c'est quand même le symbole de la routine. Enfin,
Alors que le repassage, c'est peut-être qu'on va sortir. On va peut-être sortir après.
On le fait plus.
Justement.
On repasse une robe.
La lessive, pareil.
Oui, la lessive à la main.
Oui.
Oui.
Dans les textes anciens.
Oui, c'est ça. Oui.
Ah, alors là,
vous avez l'air médusé, Patrice, comment vous étiez. C'est vrai, vous nous avez donné votre point de vue. Pour vous, boutsou-boutsou, c'était Prime Sautier, charmant.
Non, mais quand on écoute Dominique, on attendait le nom de la lessive qui allait tout changer. Donc ça commence comme une pub.
Ah oui.
Et puis, mais on attend le produit magique qui va faire étinceler la vie et la vaisselle. Ou la Française des Jeux qui va changer sa vie, mais quelque chose. C'est pas possible.
Ça serait pas les enzymes gloutons, ce serait les enzymes boutsou-boutsou.
Elle reste en première partie. Elle reste en première partie.
Mais c'est justement ce qu'elle attend, la jeune femme, la personne qui rêve.
Mais ça n'arrive jamais.
Jour,
son prince viendra sous forme d'une lessive en poudre plus efficace.
Peut-être. Monsieur est un optimiste. Hein. Vous pensez que les princes viennent toujours ?
Sous forme de lessive en poudre plus efficace. On est bien d'accord.
Bon, je ne pose même pas la question à Véronique Brindeau.
Mais si,
on se rapproche.
Car cette métaphore lessivière amène une mousse.
Et abondante.
Et fatalement, des bulles.
Ah, mais il y en avait déjà dans la vie.
Il y en avait déjà un peu dans l'évier, c'est vrai. Mais avec la lessive en question, je pense que là, on est dans l'abondance de la mousse.
Et donc, on se rapproche du vrai bout de soupe.
On se rapproche, oui.
Alors qu'avec Jean-Bernard Puy, on est toujours très loin.
Oui, je pensais au champagne. Il y a des buts avec le champagne, mais après, je n'ai pas
fait. Oui. Vous avez une troisième citation.
Oui, comme j'ai cité Raymond Queneau, enfin Pérec a cité Raymond Queneau, oui. J'ai trouvé dans Raymond Queneau, dans Loin de Rueil, un petit extrait. « Je suis un méconnu », s'exclama douloureusement des cigales. « Un méconnu !» Maintenant, il se grattait le dos. Surmontant un violent boutsou-boutsou, j'ai réussi à lui rétorquer. « Songez donc, monsieur des cigales, que notre anthologie, ce sera tout de même autre chose que ces journaux de banlieue où il se retourna, sa tête avait changé. » Elle était drôle maintenant. Il avait senti mon état.
Boutsou-boutsou. Ah oui.
Alors j'aurais une question à poser.
Oui, Véronique.
Je voudrais savoir s'il y a une importance particulière au geste de se gratter le dos. Est-ce que c'est seulement une habitude contractée?
Non, c'est le personnage.
Ou est-ce que ça le gratte?
C'est un raté. Raté sympathique. Des ciels qui se prend pour un grand auteur. Et dans le roman, le jeune homme qui s'adresse à lui... Il dit qu'il va l'éditer, tout ça, mais en fait, il fait rien. C'est quand même un roman sur... Et l'autre se gratte tout le temps.
Oui, mais ce que vous demande Véronique, c'est s'il se gratte parce que ça le démange ou si c'est une habitude de se gratter comme vous, par exemple, Jean-Bernard Puy. Très souvent, vous vous grattez la tête quand vous dites vos
textes. C'est pas que ça me démange, c'est que c'est un
tic. C'est une habitude, c'est un tic. Oui. Donc, Véronique demande si pour le personnage, c'est un tic ou une démangeaison.
Ah, c'est pas spécifié, mais je pense que c'est plutôt des démangeaisons parce qu'il n'est pas dans un état terrible.
Alors, on pourrait se rapprocher très sérieusement du sujet.
Ah oui, si ça démange uniquement.
Si ça gêne, en tout cas, oui.
Dominique Muller, un autre auteur a parlé de Boutsou-Boutsou.
Ah oui, j'ai un extrait de Modiano dans Fleurs de ruine, qui n'est pas très gai comme son nom l'indique.
Non, non.
Elle l'attendra jusqu'à demain soir dans cette chambre miteuse. Les Boutsou-Boutsou de mon père l'emmenaient au bout du monde. Maintenant, elle rince sa tasse, courbée sur le lavabo, rêvant au camion de Lucien P, son Boutsou-Boutsou en panne sur le quai d'Austerlitz, vers le pont de Bercy. Les magasins généraux existent-ils encore?
Ah oui, ça c'est pas gagné. Hein.
Ben non.
C'est pas gagné du tout.
Enfin, c'est pas perdu non plus, au fond. Patrice a raison, chacun de ces personnages n'a qu'à prendre son destin
voilà,
en main.
Voilà. Il faut planquer sa vaisselle, la planter et la planquer d'ailleurs, voilà. Et s'en
surtout
aller.
La planter là et s'en aller. Voilà.
Oui. Bon, on a des jolies interprétations de Boutsou-Boutsou par Dominique Muller, par Jean-Bernard Puy, deux sens complètement différents, avec des points de jonction avec le vrai sens, Véronique Brindeau. Alors, est-ce qu'on peut savoir maintenant ce que signifie Boutsou-Boutsou?
Alors, je crois qu'à l'intersection géométrique entre ces deux points de vue, on pourrait placer une bulle, tout simplement.
Oui.
Parce que Boutsou-Boutsou, c'est l'idée d'un bouillonnement, d'une ébullition. Par exemple, si on dit « Béchamel no hyomenga, butsu-butsu shtekita », donc on a mis un plat au four et la béchamel commence à faire des petites bulles comme ça dans le four.
On dit « béchamel japonais ». Oui, et après
on peut dire tout simplement « quand l'eau bout à gros bouillon dans une casserole, mizunga butsu-butsu waku ».
Ah oui.
Donc ça, c'est le bouillonnement.
D'accord.
Mais cette idée de bulle, c'est aussi une idée d'irrégularité. Ça peut être des petits trous, des petites bosses et des boutons sur la figure, par exemple.
Ah oui. Ah, d'où le côté démangeaison.
Voilà. Kaone butsu-butsuna de kilou, c'est avoir des boutons sur la figure.
Ah oui.
Les adolescents, ils ont un très butsu-butsu.
Cet homme est étrange.
Parce que ce sont des éruptions, c'est comme la boue volcanique qui fait des bulles. C'est
voilà,
pareil,
ça fait des petites bulles.
On dit éruption cutanée.
Oui. Alors, ça peut être assez,
comme des volcans.
Un peu, assez beau ou assez étrange. Oui. C'est par exemple la peau de poulet, vous voyez, c'est une forme de petit...
Ou quand on a la chair de poule.
Ou la chair de poule, voilà, ces petits points sur la peau.
Est-ce qu'il y a des citations littéraires à nous confier?
Uniquement dermatologique.
Et culinaire. J'ai trouvé chez Tanizaki, dans une nouvelle qui s'intitule en français « Nostalgie de ma mère ». Assez étrange nouvelle dans laquelle on entend un personnage chemine et il entend les vagues qui laissent échapper un murmure léger et timide. Et il dit ceci « Kaniga kōra no suki nakara butsu butsu to hakuawa no yona ». qu'il compare ces vagues. Il dit « On eût dit les pleurs étouffés d'une femme ou ces bulles que les crabes soufflent par les interstices de leur carapace. »
Ah oui.
Ils font ça, les crabes.
Ah,
oui,
ah la bulle du crabe.
Oui, oui, oui. La bulle du crabe.
La bulle du crabe.
Oui, 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 oui.
C'est le clapot, c'est pareil.
Oui,
ça,
oui, oui.
On voit bien. Hein.
Oui,
ces
oui.
petites bulles qui éclatent en surface. Magnifique, la bulle du crabe.
Irisée.
Mais il a vraiment écrit ça. Ou c'est une traduction?
C'est une traduction de Jacqueline Pigeot.
Qu'est-ce que vous nous chantez aujourd'hui, Jeanne Carillon? En japonais, évidemment.
Une chanson très peu connue.
Oui.
Non, non, elle est très connue, vous allez la reconnaître, j'espère. Machiyo aruku kokoro karuku dareka ni aeru kono michi de kawaii kimi ni koe o kakete konnichiwa boku to yukimasho aux Champs-Élysées para para pa aux Champs-Élysées para para pa itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo aux Champs-Élysées kimi yo tsurete asobi ni yuko minna ga atsumaru ano kurabu gitara hoite asama de utau tanoshiku sawede koyo soru aux Champs-Élysées para para pam aux Champs-Élysées para para pam itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo aux Champs-Élysées Kino made wa shiranai doshi, kyo kara futari koibito sa. Michi yo kukeba sekai wa yureru, aisuru kimi to boku no tame ni. Aux Champs-Élysées, para para pam. Aux Champs-Élysées, para para pam. Itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo aux Champs-Élysées. Wouh!
Bravo, ouais.
Trop joli l'accent, Jeanne. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an, à retrouver pour une nouvelle écoute directe pendant 1000 jours sur la page des Papous du 9 novembre, page sur laquelle vous pouvez poster vos demandes, remarques et autres suggestions, rubrique commentaires, et puis tous les renseignements concernant les 30 ans des Papous dans la tête le dimanche 30 novembre à la Maison de la Radio se trouvent à l'avis du club, sur l'agenda de France Culture et sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. Au revoir, dans quelques instants, c'est Antoine Perrault qui prend le relais avec Tire ta langue pour un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,